Bonjour, bonjour, bonsoir. Bonjour, les petits amis, comment ça va? Est-ce que ça roule? Ça c'est bon, ça c'est bon. Bienvenue. Ça va. Incroyable. Deuxième jour de la survie de François Bayrou, qui n'a pas été censuré hier. Bon, s'y attendait, hein, de toute façon, ça dépendait du Rassemblement national. Et le Rassemblement national n'a pas censuré, comme à son habitude, en tout cas pas tout de suite. On verra la suite et on verra surtout les discussions sur le budget. C'est peut-être là que ça va coincer, on verra. C'est le stream du navion? Non, absolument pas, non. Toum-toum. Toum-toum. Et j'ai quelques articles à lire avec vous. J'ai quelques articles à lire avec vous. Pour discuter justement de la situation politique et des réactions depuis hier, depuis le volte-face du Parti Socialiste, qui donc, suite à son accord avec François Bayrou, a décidé de ne pas le censurer. Merci beaucoup pour ce que tu fais, je me suis politisé grandement grâce à toi, et aujourd'hui je me retrouve à aider à l'accueil de réfugiés en France. Waouh, stylé. Stylé, stylé, stylé. Il faut sauver le soldat Bayrou. Ah bah on verra combien de temps ça dure cet attelage. Hein, parce que. Déjà que Barnier, ça va pas durer longtemps, alors là, Bayrou, c'est encore plus précaire. Toum. Jusqu'au 49-3. Bah. Un peu l'idée que je m'en fais, mais ça on verra. J'ai un premier article à lire avec vous. Il a passé la censure à la différence de Barnier. Ah non, non, non. Barnier aussi, il a survécu à la première motion de censure, je vous rappelle. Barnier aussi, il a survécu. La première motion de censure qui a été déposée contre Barnier, Barnier, il a été sauvé. Hein. C'est à la deuxième qu'il a été censuré. Est-ce qu'on peut dire que Faure a gagné son congrès? Il l'avait déjà gagné. Pour moi, il l'avait déjà gagné. Dès l'instant où il accepte de rentrer en négociation avec Bayrou, pour moi, il avait gagné le congrès. On verra, puis surtout, on verra s'il y a un congrès. Hein. On verra s'il y a un congrès cette année, c'est pas sûr. Premier article que je voulais lire avec vous. Comment François Bayrou est parvenu à décrocher les socialistes du nouveau Front Populaire? C'est un peu la méta-analyse du Monde à l'issue des 2 semaines de tractation qu'il y a eu entre Bayrou et les socialistes. Et ensuite, on va regarder les réactions que ça a provoquées à gauche et à droite. Est-ce que ça fait un peu bouger les lignes? Les députés PS ont décidé jeudi de ne pas voter la motion de censure déposée par leurs partenaires insoumis, écologistes et communistes. Olivier Faure a néanmoins assuré vouloir incarner une gauche qui fait céder le gouvernement, entre guillemets. Pardon. Sur le banc des ministres à l'Assemblée nationale, jeudi 16 février, François Bayrou boit les paroles du premier secrétaire du Parti socialiste. À la tribune, Olivier Faure annonce qu'il ne votera pas la motion de censure déposée par les insoumis, les écologistes et les communistes. Après beaucoup de travail, de discussion, de négociation, le premier ministre a enfin réussi à décrocher les députés socialistes de la France insoumise. Finalement, le texte défendu par les insoumis a récolté 131 voix. Loin de la majorité nécessaire de 288 suffrages. Là où ses trois prédécesseurs ont échoué depuis 2022, le maire de Pau est parvenu à obtenir non pas une majorité dans l'hémicycle, mais l'assurance que le groupe PS en position charnière ne mêlera pas ses voix à celles de ceux qui veulent le renverser. À celles de ceux qui veulent le renverser. Son gouvernement échappe ainsi, au moins provisoirement, à la tutelle du Rassemblement national. Un autre chemin se dégage, souffle le Premier ministre, jeudi 16 janvier, date à laquelle Jean-Luc Mélenchon avait promis de le faire tomber. Attendez, excusez-moi, je vérifie juste un truc. pardon. Non, c'est juste un réglage de micro parce que j'ai l'impression que le gate il est plus bas que d'habitude. Je sais pas si c'est encore le petit chat qui a marché quelque part. Certes, il sera un Premier ministre sous surveillance du PS, comme son prédécesseur avait un Premier ministre sous surveillance du RN. C'est ce que je vous expliquais hier sur la bascule qui est opérée et que souhaitait le Parti socialiste justement obtenir le fait que le gouvernement soit sous la surveillance de la gauche et non plus de l'extrême droite, en négociant avec lui sur la question des retraites, mais en le mettant sous menace pour le reste, y compris pour le budget. Certes, il sera un Premier ministre sous surveillance du PS, comme son prédécesseur était un Premier ministre sous surveillance du RN. Si nous avons le sentiment que le débat est verrouillé, si tout apparaît comme un simple simulacre, nous déposerons une motion de censure, prévient Olivier Faure, qui veut incarner une gauche qui fait céder le gouvernement. Une épée de bois qui n'inquiète pas le Premier ministre. Faure ne pouvait pas dire autre chose, juge-t-on à Matignon. Face aux insoumis qui hurlent à la trahison du PS, l'intérêt des socialistes est de continuer à mettre la pression sur le gouvernement, comprend-on Rude Varenne. Notre vocation est d'arracher jour après jour toutes les victoires possibles, lance le député de Seine-et-Marne. S'il avait bien fait une concession importante sur les retraites, en remettant en cause ce totem macroniste, François Bayrou n'avait pas donné de points aux socialistes mardi, dans sa déclaration de politique générale, provoquant leur raidissement. Vous auriez dû, par simple respect du dialogue engagé, reconnaître que nos échanges, notre dialogue, notre négociation a permis de faire bouger les lignes, lui a reproché jeudi Olivier Faure à la tribune. Nous n'avons pas la négociation honteuse et vous ne devriez pas davantage en avoir honte. Le locataire de Matignon encaisse. Ça, on l'a vu. On l'a vu pendant les débats sur la motion de censure, effectivement. En tout cas, sur le discours de politique générale, François Bayrou n'a pas donné tant de gages que ça au Parti socialiste dans le discours. Ce que lui a reproché Olivier Faure dans le discours sur la motion de censure en disant, mais en fait, si vous aviez été honnête, Monsieur Bayrou, vous auriez dû dire tout ce que vous nous avez dit en réunion. Tout ce qu'on a obtenu en réunion. Sauf que s'il faisait ça, François Bayrou, il perdait potentiellement les Républicains. Ça, on le verra tout à l'heure. Avant d'écouter Olivier Faure, François Bayrou, adoptant le registre dramatique, a lu devant les députés le communiqué signé à la mi-décembre 2024 par les organisations patronales et syndicales qui appelle au retour de la stabilité politique. Une expression commune, inhabituelle, qui dit l'inquiétude des forces vives du pays. La chute du gouvernement de Michel Barnier a créé un moment cathartique, analyse-t-on à Matignon, qui peut rendre les forces politiques plus conséquentes. Devant les députés, le Premier ministre a insisté sur la situation si grave que connaît notre pays, dépeignant la France et l'Europe en situation de citadelle assiégée face à la Chine et aux États-Unis. Mais ce ne sont pas seulement des considérations géopolitiques qui ont déterminé le sort de François Bayrou. Entre le désarroi des socialistes mardi, qui n'ont pas retrouvé les engagements du ministre de l'économie Éric Lombard dans le discours du Premier ministre, c'est ce que j'ai expliqué, et leur décision de ne pas voter la censure jeudi, le conseiller spécial du Premier ministre Éric Thiers a joué un rôle clé. Le haut fonctionnaire a organisé en 48 heures le rattrapage des troupes d'Olivier Faure. Le Premier ministre s'engage à donner le dernier mot au Parlement sur les retraites, abandonne la suppression de 4 000 postes d'enseignement et l'ajout de 2 jours de carence pour les agents publics, et se fend d'une longue lettre dans laquelle François Bayrou détaille noir sur blanc une série de concessions à l'intention des dirigeants socialistes, assumant ainsi publiquement de céder à leurs demandes. Attends quoi? Éric Thiers, le haut fonctionnaire a organisé en 48 heures le rattrapage des troupes d'Olivier Faure. Le Premier ministre s'engage à donner le dernier mot au Parlement sur les retraites, abandonne la suppression de 4 000 postes d'enseignants, l'ajout de 2 jours de carence pour les agents publics. Ça, on a vu effectivement, c'était effectivement. En fait, le discours de politique générale de François Bayrou a été jugé très décevant par les socialistes qui attendaient mieux, qui attendaient plus de la part de François Bayrou. Et dans les 2 jours qui ont suivi le discours de politique générale de François Bayrou, on a effectivement appris que François Bayrou reculait sur quelques trucs, sur plus de trucs en tout cas que ce qu'il a bien voulu dire dans son discours. Donc effectivement, le Parlement aura bien et bien le dernier mot sur la réforme des retraites, l'abandon des suppressions de 4 000 postes d'enseignants. Ça, on l'a appris, l'ajout de 2 jours de carence pour les agents publics, l'abandon du coup des deux jours supplémentaires de carence pour les agents de la fonction publique. Et donc, il a envoyé une lettre dans laquelle François Bayrou détaille noir sur blanc une série de concessions à l'intention des dirigeants socialistes, assumant ainsi publiquement de céder à leurs demandes. J'aimerais bien lire cette lettre d'Éric Thiers. Ça m'intéresse. En permettant aux socialistes de s'affranchir du nouveau Front populaire, François Bayrou a réussi là où Emmanuel Macron, lui, qui avait parié sur la désunion à gauche en dissolvant l'Assemblée nationale, a échoué. François Bayrou a certes beaucoup lâché aux socialistes, mais en même temps, il a réussi à provoquer un signal qui est la division, à mon avis, irréversible du NFP. Et ça, c'est très important. Se réjouit le chef de file des sénateurs macronistes, François Patriat, proche du chef de l'État. À la tribune, le Premier ministre n'a pas manqué de dénoncer l'affrontement perpétuel entretenu par la gauche radicale, l'opposant à la gauche ouverte au compromis. Bon, évidemment, les macronistes se réjouissent du volte-face du Parti socialiste qui, selon eux, a quitté le NFP. Ça, c'est pas étonnant. À défaut d'être soutenu par l'opinion publique, le centriste est désormais un peu moins vulnérable au Parlement, grâce à ce pacte de non-agression avec une partie de la gauche de l'hémicycle. Dans la situation actuelle, essayer de mener des négociations de bonne foi avec la gauche de gouvernement, c'est aussi respecter le message des Français au second tour des législatives, assure Charles Sitzenthal, député Renaissance du Bas-Rhin. François Bayrou bénéficie, il est vrai, d'une conjonction d'intérêts entre les socialistes et le bloc central, qui, faute de candidats identifiés, ne sont pas prêts à affronter une éventuelle élection présidentielle anticipée provoquée par la chute du gouvernement. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Aussi, le soulagement est-il perceptible chez les macronistes, où l'on salue volontiers le talent de manœuvrier du Premier ministre. Si on nous avait dit qu'on aurait eu en un seul coup, la stabilité gouvernementale, la dislocation du NFP et qu'on se débarrassait de la tutelle du RN, on aurait signé tout de suite, s'incline le député Renaissance des Hauts-de-Seine, Pierre Cazeneuve, vice-président du groupe macroniste. Bah on en revient à ce qu'on disait précédemment, où les macronistes célèbrent, sabrent le champagne et célèbrent effectivement cette décision des socialistes. Non, le chat, si tu peux ne pas marcher sur la carte son, c'est mieux. Tu dis bonjour aux gens? Tu dis bonjour aux gens, regarde. Bonjour. Bon, je termine le dernier paragraphe. Même si le coût de l'opération inquiète les fidèles du chef de l'État, où est-ce que François Bayrou va trouver ces milliards d'euros d'économies qu'il a lâchés au PS, se demande François Patriat. Un accord avec les socialistes, ça coûte toujours un peu d'argent, sourit M. Cazeneuve, résigné. Un prix qui sera toujours moins élevé que celui de l'instabilité, assure-t-on rue de Varenne. Bon, soulagement donc dans les rangs macronistes, suite à cette non-censure des socialistes, en tout cas temporaire, on verra combien de temps ça dure. On verra combien de temps ça dure. On n'a pas appris grand-chose dans cet article qu'on ne savait pas déjà, mais ça replace un petit peu le cadre de ce qu'on a vécu ces derniers jours. Il célèbre pas un peu tôt. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. En vrai, je suis d'accord avec toi. C'est peut-être un peu tôt pour célébrer parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait et on ne sait pas si le PS va rester dans la coalition. J'avoue que j'ai du mal à comprendre LFI qui parle de mener des politiques de compromis, mais quand c'est le PS qui lance la marche, c'est soudainement des traîtres. Oui, ça on en avait déjà parlé. Justement, parlons-en de ce que ça a provoqué, parce que le fait que les socialistes ne votent pas, ne signent pas et ne votent pas la motion de censure déposée par le reste de leurs partenaires du NFP, évidemment, ça fait grincer des dents. D'où cet article d'analyse de Libération entre socialistes et insoumis, la fracture après la non-censure. Où est-ce qu'on en est dans les relations entre les insoumis et les socialistes? Sans oublier les communistes et les écologistes. Elle est bien cette photo. Elle est bien cette photo, j'aime bien. C'est Philippe Brun qu'on voit là ou pas? C'est pas l'impression que c'est Philippe Brun. Que t'as Olivier Faure qui est là. T'as la gauche et la droite du Parti Socialiste. T'as François Hollande et Jérôme Guedj côte à côte. Et Olivier Faure et... Ça a pas l'air d'être Philippe Brun. Je sais pas. Bon, peu importe. Ça aurait été marrant que ce soit Philippe Brun. Il fait un peu peinture Renaissance. Ouais. Ouais. Le PS a finalement décidé de ne pas voter la motion défendue par le reste de la gauche. Accusé de trahison par les insoumis, le groupe d'Olivier Faure insiste sur les avancées obtenues. Se livrer une bataille de récits autour d'une motion de censure promise à l'échec. Là est tout le talent de la gauche. Après des heures de discussion et d'innombrables réunions, le Parti socialiste a décidé de ne pas voter le texte défendu ce jeudi 16 janvier par le reste du nouveau Front populaire qui, sans les voix du Rassemblement national, n'avait de toutes les façons aucune chance d'être adopté. Moqués par les insoumis qui les accusent de compromission et pointent leur isolement, les socialistes revendiquent, eux, une victoire. Après des jours de négociations avec le gouvernement, ils se targuent d'avoir décroché l'abandon de la suppression de 4000 postes d'enseignants, celui du passage d'un à trois jours de carence pour les fonctionnaires, ou encore une légère hausse du taux de la taxe sur les transactions financières. Sur la réforme des retraites, point clé des discussions, ils se félicitent de la clarification opérée par François Bayrou. Dans un courrier adressé au président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, le Premier ministre s'engage, comme le demandait le PS, à présenter un projet de loi en cas d'échec des négociations avec les partenaires sociaux. D'accord. C'est cette lettre publiée par les socialistes juste avant l'examen de la motion de censure qui leur promet de se raccrocher aux branches in extremis. Donc, c'est bel et bien ce qui s'est passé hier. François Bayrou a écrit noir sur blanc qu'il revenait sur ce qu'il a dit mardi, quand il a dit que en cas d'échec des négociations entre les partenaires sociaux, la loi d'Elisabeth Borne continue à s'appliquer. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il y aura bel et bien une loi qui sera engagée à l'Assemblée. Et c'est sur la base de cette lettre-là que du coup les socialistes hier ont confirmé qu'ils ne voteraient pas la motion de censure, alors qu'ils avaient menacé de quand même la voter depuis mardi. Il s'est passé beaucoup de choses en 24 heures, hein, 48 heures. Si le MEDEF bloque la tentative, le PS a les mains libres sur le texte. Pas le PS, le Parlement. Le Parlement a les mains libres sur le texte. C'est exactement ce que demandaient les insoumis d'ailleurs. Hein. Le retour du texte à l'Assemblée. Et puis surtout, ça fait pression sur le MEDEF, du coup. Parce que c'est le principe des négociations, c'est le principe des négociations conventionnelles entre les partenaires sociaux dans ce type de cas. C'est qu'est-ce qui se passe si qu'est-ce qui se passe si la négociation échoue et est-ce que j'ai intérêt à la laisser échouer la négociation? Une question que peut se poser n'importe quel partenaire social, n'importe quel syndicat. Si tu dis aux partenaires sociaux, si jamais la négociation échoue, on continue d'appliquer la réforme des retraites. Bah, tu incites le MEDEF, qui a plutôt intérêt à ce qu'on garde la réforme des retraites, à ne pas trouver d'accord, à faire échouer la discussion, à dire bah, non, non, c'est dommage, on n'arrive pas à se mettre d'accord, etc. Ils y ont intérêt. Si par contre tu leur retires ça, tu leur dis que vous réussissiez à trouver un accord avec les socialistes, que vous réussissiez à trouver un accord avec les syndicats ou que vous échouez, dans les deux cas, le texte revient à l'Assemblée nationale et de toute façon, il y aura une négociation parlementaire. Là, tu incites fortement le MEDEF à trouver un accord. Ils ont plus intérêt à trouver un accord négocié avec la CFDT, la CGT, CFE-CGC, etc. Enfin, bref, tous les partenaires sociaux, plutôt que de laisser les parlementaires tenir la plume. Si les parlementaires tiennent la plume, c'est pas sûr que ça aille dans le sens des intérêts du MEDEF. Ou en tout cas, encore moins dans le sens des intérêts du MEDEF. C'est combien la durée des négociations? 3 mois. 3 mois, 3 mois, 3 mois. Donc je reviens sur le texte. En s'engageant dans les négociations avec le gouvernement pour rééquilibrer le budget, les socialistes savaient qu'ils prenaient le risque de trébucher. Alors qu'ils pensaient avoir décroché des victoires sur les retraites, la fiscalité ou encore le service public, la déclaration de politique générale de François Bayrou les a poussés au bord du précipice. Comment justifier la non-censure alors que pour les écologistes et les communistes qui ont participé aux négociations, le compte n'y était pas? Pour qu'il y ait une farce, il faut qu'il y ait des dindons, cinglait le coordinateur de LFI Manuel Bompard. Elle est totalement validée, cette punch de Manuel Bompard. Pour qu'il y ait une farce, faut qu'il y ait des dindons. Elle est bien, en vrai, elle est bien. Une partie des socialistes, à commencer par les soutiens d'Olivier Faure, défendait donc la censure, mercredi 15 janvier au soir, lors d'une réunion agitée, avec près de 500 membres connectés. Son courant s'est très majoritairement prononcé en ce sens, estimant que c'est en mettant des menaces à exécution qu'il se ferait respecter. Olivier n'est pas seulement le chef d'un courant, mais du PS, a défendu le socialiste Luc Broussy. Car une autre partie du PS craignait de condamner les discussions avec le gouvernement en votant la motion, poussant ainsi Bayrou dans les bras du RN. Beaucoup de députés sont en outre revenus de leur cérémonie de vœux avec la conviction que les Français étaient en attente de stabilité. Toujours la pression, la tentation et la menace en réalité du poids que fait peser le RN sur le gouvernement. Est-ce qu'on préfère être nous les maîtres chanteurs qui tenons le gouvernement par la négociation, ou est-ce qu'on préfère que ce soit le RN? Le 15 janvier, toujours dans l'après-midi, alors qu'il commençait lui-même à pencher pour la censure, agacé par la faiblesse des concessions, Olivier Faure a constaté qu'un tiers du groupe parlementaire continuait à défendre la voie inverse. En se rangeant de leur côté, le premier secrétaire choisit aussi de revendiquer la victoire malgré tout. Après avoir fièrement écumé les plateaux de télé en défendant la voie du compromis, les socialistes auraient dû acter leur échec en se rangeant à la censure. Tout ça pour ça. Une humiliation alors que les insoumis ont passé des jours à alterner entre menaces et moqueries, rendant ainsi d'autant plus difficile le ralliement de leurs partenaires. C'est ça pour moi. Pour moi, c'est ça l'élément qui fait que non seulement le NFP n'est pas mort, mais ça on en reparlera, mais surtout... c'est pas la fin de l'histoire, la non-censure du PS du 16 janvier. Parce que, compte tenu de ce qu'a annoncé François Bayrou, visiblement, il n'y avait qu'un tiers des socialistes qui étaient chauds pour censurer François Bayrou. Il n'y avait qu'un tiers qui était chaud pour ne pas censurer François Bayrou. Ça veut dire que les deux tiers des députés socialistes étaient plutôt partants. Une quarantaine de députés socialistes étaient plutôt partants pour censurer Bayrou. Mais censurer Bayrou, c'était acter l'échec des négociations avec Bayrou et renvoyer François Bayrou dans les mains du RN. Du coup, ils ont décidé de se ranger temporairement à la non-censure, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de censure plus tard. Et le plus tard, vous le voyez gros comme une maison, c'est l'éléphant au milieu de la pièce, le budget. On verra au vote du budget, exactement, Heartbreaker, c'est exactement ce que tu dis. Dans la dernière ligne droite, Olivier Faure et Boris Vallaud, président du groupe socialiste à l'Assemblée, ont donc réclamé à Bayrou un courrier clarifiant tous les points de négociation qui devaient l'être. Une façon de mettre en avant ce que leur a cédé le Premier ministre pour leur permettre de ne pas voter la censure sans donner l'impression d'être perdu. Hier, nous n'étions pas à l'aise, mais finalement, sur la séquence, on a réussi à être identifié comme dans l'opposition mais constructif. Pour la première fois, une brèche est ouverte sur les retraites, juge un socialiste soulagé. Les insoumis, eux, ont immédiatement décrété leur exclusion du NFP. Le PS fracture le NFP, mais il capitule seul, a fustigé Jean-Luc Mélenchon sur X. Mélenchon ne décide pas qui fait partie du NFP et qui n'en fait pas partie. On n'a pas désigné de videur, s'agace un député communiste. Avant de mettre en garde, plus on pousse les socialistes dehors, plus ils vont être tentés de trahir. Précisément ce qu'attendent les insoumis. L'eurodéputé écologiste David Cormand, lui, évacue. La gauche s'empaille sur le vote de cette motion alors que beaucoup de gens s'en foutent. Même ceux qui votent pour nous et qui pensent que c'est terrible du point de vue démocratique que Macron ne tienne pas compte des élections législatives. Ouais, l'analyse de David Cormand qui dit que tout ça, finalement, c'est des... Tout ça, c'est des embrouilles parisiennes entre chefs de parti qui n'excitent guère que les streamers politiques, mais les vrais Français, ils s'en battent les couilles. Peut-être. Peut-être. Pourquoi les partenaires sociaux du Conseil d'orientation des retraites ne sont pas contents de l'entrée dans le jeu de la Cour des comptes pour chiffrer le déficit annuel des retraites, peur de ce qui va en sortir. Ben oui, en fait, moi je ne comprends pas pourquoi François Bayrou confie à la Cour des comptes une mission d'objectivisation des financements des retraites, alors qu'on a justement inventé le Conseil d'orientation des retraites pour ça. C'est comme si on disait c'est comme si on disait, ouais, la situation financière de la France, il faut l'objectiver, donc on va confier une mission temporaire à la Banque de France, qui va devoir rendre un rapport pour nous dire dans quelle situation est la France. Bah là, t'as la Cour des comptes qui va répondre bonjour, en fait, on existe. Comment vous dire que c'est plus ou moins très exactement notre boulot de faire ça? Qu'est-ce que. Voilà. Donc moi je suis d'accord avec les partenaires sociaux, je comprends pas pourquoi François Bayrou s'est senti obligé de dire ah, on va faire un truc qu'on n'a jamais fait, on va objectiver le débat. Bah, on l'a toujours fait. Bon, ceci étant, c'est pas pour. Enfin bon, le Conseil d'orientation des retraites, il n'est pas parfait non plus, hein. On l'a vu notamment en 2023 pendant la réforme des retraites d'Elisabeth Borne, que la même institution, le Conseil d'orientation des retraites, a dit, à genre 6 mois d'écart, n'y a pas besoin de réforme des retraites puisque notre système est financé. Et 6 mois plus tard, alors que la réforme est entrée en vigueur, elle va pas suffire cette réforme, il aurait fallu aller plus loin. Parce qu'on n'a pas assez d'argent. Il y a quand même pas mal de gens qui ont grincé des dents à ce moment-là sur le Conseil d'orientation des retraites en disant, bon, il y a un moment, ça va 5 minutes, en fait, les mecs, soit votre boulot, c'est d'objectiver le problème, soit si ça change en fonction du vent. Peut-être beaucoup de nouveaux retraités en 6 mois. Non, c'est pas tant le nombre de nouveaux retraités, ça c'est plutôt stable, c'est les évolutions de la conjoncture économique. Donc, mesdames et messieurs, où est-ce qu'on en est? François Bayrou a dealé avec les socialistes un certain nombre de choses pour obtenir que les socialistes ne votent pas la motion de censure. Ok? Qu'est-ce qu'ils ont obtenu les socialistes? Ils ont obtenu le retour sur les 4 000. Donc il n'y aura pas 4 000 suppressions de postes dans l'éducation nationale, contrairement à ce qui était prévu. Il n'y aura pas les 3 jours de carence pour les fonctionnaires de la fonction publique. La taxation des hauts revenus qui va être revue dans le budget. L'ouverture des négociations sur la réforme des retraites pendant 3 mois, à l'issue de laquelle il y aura un retour au Parlement, quelle que soit l'issue des négociations. Et un certain nombre d'autres trucs. Ça, c'est ce qu'a obtenu le Parti socialiste, semble-t-il, dans la négociation, machin. Mais du coup, ça veut dire que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le gouvernement de François Bayrou dépend des socialistes pour exister. Le gouvernement de François Bayrou a intérêt à ce que les socialistes continuent à ne pas censurer, à ne pas censurer. Mais du coup, est-ce que ça ne donne pas un gouvernement un peu trop à gauche? Aux yeux d'autres que les socialistes. Et ben c'est exactement ce qu'on va voir, parce que du côté des Républicains, ça grince des dents fort. Fort, Olivier Faure, vous l'avez? J'adore, MDR, énorme. Le gouvernement penche-t-il trop à gauche? Ça commence à foutre le bordel du côté des ministres issus des Républicains. Les concessions de François Bayrou à la gauche placent les ministres LR en position inconfortable. Pour la droite, le coût de la non-censure atteint une limite de plus. Non, pardon. Le coût de la non-censure atteint une limite de plus en plus difficile à soutenir, au risque de rompre dangereusement avec les promesses de maîtrise budgétaire. Eh oui, c'est ça le problème quand on tope avec la gauche, c'est que ça coûte du pognon. Excusez-moi, faut que je me connecte au Figaro. Mais vas-y, wesh, pourquoi tu. Je vais pas se connecter. Mais. J'ai plus mon abonnement au Figaro. Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ai été ban. J'ai été ban du Figaro. Shadowban. Mais vas-y, wesh, mon mot de passe, ça a toujours été le même. Pourquoi tu me dis qu'il marche plus et pourquoi tu me dis que je peux pas me connecter via Google ou Facebook Quelle est donc l'embrouille? Quelle est donc l'embrouille? Vas-y, moi je voulais juste lire un article, hein. Oh là là, la réinitialisation du mot de passe. Voilà, c'est bon, je me suis connecté, mais du coup, j'ai perdu mon article. J'ai perdu mon article. Voilà. Voilà. Donc, tout ça, ça penche beaucoup trop à gauche. Le gouvernement dans la main des socialistes, qui rend la position des députés, des ministres LR assez inconfortable. Le tango du Premier ministre avec les socialistes, compris par les républicains comme une manœuvre irresponsable de contournement de la censure, agace profondément à droite. Et les ministres LR engagés dans le gouvernement, dans la participation au gouvernement Bayrou, au nom précisément de l'esprit de responsabilité au temps de crise budgétaire aiguë, se retrouvent mécaniquement en situation d'inconfort. Comment assumer un soutien exigeant à Matignon quand un risque non négligeable existe sur l'impact budgétaire des concessions faites au PS qui ne ferait qu'aggraver l'inquiétant déséquilibre des finances publiques? Eh bien oui. Au lendemain d'une déclaration de politique générale critiquée pour son manque de clarté, les LR se souviennent de l'avertissement musclé formulé en amont par Laurent Wauquiez durant la discussion avec le ministre de l'économie Éric Lombard. Je cite Laurent Wauquiez. Nous n'avons pas la même hiérarchie de priorités. Mon sujet, c'est d'avoir un budget adapté à un pays qui est ruiné, pas de savoir comment vous achetez votre assurance vie avec la gauche, avait tonné le chef de file de la droite. Putain, je me souviens de cette formule. C'était mardi, vous en souvenez? Quelques jours plus tard, en prenant la mesure des conséquences de la stratégie Bayrou, il faut bien reconnaître que la pilule est amère pour la droite. La non-censure correspond à une dégradation de 15 milliards d'euros. D'ailleurs, au sein des ministères tenus par la droite, on sentait bien vendredi une certaine gêne en coulisses. En tout cas, au-delà des règles élémentaires de loyauté s'imposant à chaque membre du gouvernement, on reconnaissait une situation très compliquée. L'état des lieux fait par Christian Saint-Étienne auprès du Figaro est lui-même sans appel. Par rapport à la trajectoire Barnier, qui avait prévu pour l'année 2025, la non-censure correspond à une dégradation de 15 milliards d'euros, assure l'économiste, qui a souvent participé aux travaux LR et reste prudent sur le niveau de baisse du déficit. Il ne faut jamais oublier de rappeler que même avec une certaine rigueur, la tendance actuelle de la baisse des dépenses publiques en France est de 40 à 50 milliards par an. En vérité, on ne fait que freiner une dérive sans régler le problème de fond, souligne l'universitaire. Ouais. Non, je regardais le calcul. Bref, pour la droite, l'addition est salée. L'addition est salée, ça coûte trop cher, cet accord avec les socialistes. Toutes les concessions qu'il faut faire à la gauche pour obtenir la non-censure des socialistes, tout ça, c'est de la dépense publique. Et l'addition est trop salée. 4000 postes finalement non supprimés dans l'éducation nationale, abandon de 2 jours de carence pour les agents publics, annulation du déremboursement partiel de certains médicaments. Curieusement, chez les Républicains, alors que le volume de concessions budgétaires faites à la gauche commençait à se voir dès jeudi, personne n'avait eu l'idée de lancer un premier chiffrage des renoncements. Pourtant, une amertume croissante était palpable vendredi à droite, notamment chez les ministres sortants du précédent gouvernement. Marie-Claire Carrère, qui avait le portefeuille de la coordination gouvernementale de Michel Barnier, fustige le jeu de la gauche. Les Français vont payer très cher, et deux fois, l'inconséquence du PS, qui n'est plus du tout un parti de gouvernement. La première facture a déjà coûté des milliards. C'était en décembre, avec la censure du gouvernement Barnier par les socialistes. Perte de croissance, perte de capital de confiance sur les marchés. Et aujourd'hui, le PS, qui sait qu'il faut absolument un budget pour la France, présente une nouvelle addition, tout aussi lourde. Dénonce l'élue parisienne, en pointant une fracture de non-censure. Une facture de non-censure, correspondant à l'abandon de milliards supplémentaires d'économies. Si la droite se félicite d'avoir évité le pire sur les retraites grâce à un coup de pression mis sur François Bayrou, elle entend poser des garde-fous. Le scepticisme aurait même gagné du terrain hors LR, selon un parlementaire de droite. L'ex-porte-parole Maud Bréjon et l'ex-ministre de la fonction publique Guillaume Kasbarian n'hésiteraient pas à confier leur effarement en privé. Ah, le coup de barre à gauche de François Bayrou fait grincer des dents à la droite du gouvernement, y compris Guillaume Kasbarian, qui est connu pour ne pas être un grand dépensier, bien au contraire. Dans l'entourage de Laurent Wauquiez, on essaye de ne pas mettre trop d'huile sur le feu, sans doute pour ne pas compliquer les missions des ministres LR. Mais on laisse clairement entendre aussi que le soutien de la droite serait loin d'être acquis. Le sujet, c'est l'équilibre global du budget, avec deux points de vigilance de notre côté. Pas de dérive des comptes et pas de nouvelle augmentation d'impôts. C'est en fonction de cela que nous déciderons de notre vote, prévient au sein du groupe droite républicaine à l'Assemblée. Donc les Républicains font monter la pression sur François Bayrou. Ok, tu veux jouer au négociateur avec le PS, bah nous, c'est pas sûr qu'on vote ton budget. Si le résultat des négociations avec le PS, c'est l'augmentation du budget avec des milliards et des milliards d'euros de dépenses supplémentaires, ce sera sans nous. Jean-Didier Berger, des Hauts-de-Seine, qui a souvent siégé avec sa collègue Véronique Louwagie au sein de la commission des finances à l'Assemblée, veut croire que les concessions faites à la gauche ne condamnent pas définitivement la politique de Matignon. Le PS essaie de trouver un chemin pour se libérer de la France insoumise et j'ai envie de faire confiance au Premier ministre. Parler n'engage à rien, même avec le PS. Donc oui au dialogue, mais à condition qu'il ne s'adroisisse pas par des compromissions orthogonales, prévient le parlementaire. Patrick Hetzel, ex-ministre de l'enseignement supérieur, semble lui soulagé de ne pas avoir voulu rester sur le bureau. Le risque est très clair. Le mandat que j'ai assigné au Premier ministre est d'essayer de maintenir l'amarrage des Républicains en s'ouvrant vers le PS. Mais à un moment donné, ce sera le grand écart. On peut toujours essayer de jouer sur cette tension, mais aller plus loin vers la gauche conduirait ipso facto à ce que les choses se tendent à droite et à augmenter le degré d'inconfort de nos ministres, souligne le député du Bas-Rhin. Certains LR comptent d'ailleurs sur la vigilance de leurs amis ministres pour mettre en garde François Bayrou. Ils ne le feront peut-être pas de manière publique, mais ce sont eux qui poseront les questions de confiance au Premier ministre. Parce qu'il s'agit de lui faire comprendre qu'il joue avec le feu et que même s'il est persuadé que tout cela n'est pas trop grave, la situation en réalité est extrêmement dangereuse. S'alarme un député. En découvrant la lettre envoyée jeudi par François Bayrou aux deux présidents de groupes parlementaires socialistes, Boris Vallaud et Patrick Kanner, Assemblée nationale et Sénat. Donc, en découvrant la lettre envoyée jeudi par François Bayrou aux deux présidents des groupes parlementaires socialistes, l'ex-président du groupe LR, Olivier Marleix, n'a pas caché sa déception. Les mots « dette » et « déficit » ne figurent même pas dans le courrier. Bayrou, au PS, c'est « reviens, j'annule tout ». Accuse le député LR d'Eure-et-Loire. Les Républicains ont aussi identifié une contradiction importante dans la méthode de François Bayrou. Il faut observer que le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, n'est pas le seul à alerter le pouvoir sur la situation budgétaire. Le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, tire aussi la sonnette d'alarme. Il faudrait que cela puisse alerter le pouvoir. Mais le paradoxe du Premier ministre est de vouloir s'appuyer sur la Cour des comptes pour faire les points de retraite sans faire grand cas de son avis sur le budget. Oui, en plus c'est vrai. C'est vrai. François Bayrou qui missionne la Cour des comptes pour objectiver le débat sur les retraites, mais alors, par contre, ce que dit la Cour des comptes le reste de l'année, on s'en bat un peu les couilles. Si les finances du pays devaient s'aggraver, faute de trajectoire plus rigoureuse, la confusion entre la participation au gouvernement et la complicité deviendrait problématique pour les Républicains. La ligne de crête, c'est l'intérêt du pays. Il est impensable, il est indispensable d'avoir un budget, mais pas n'importe quel prix. Redoute-t-on au sein du groupe Droite républicaine, où l'on en est à se demander comment le cap des 5,4% de déficit sera tenu et si le pays ne se dirige pas vers un budget aussi incontrôlé que celui de 2024, qui a suscité deux commissions d'enquête parlementaire, au Sénat puis à l'Assemblée. La maîtrise budgétaire est un acte politique, martèle-t-on encore chez les Républicains. Avant de rappeler que le même Bruno Retailleau, qui a toujours considéré que l'action politique était un tout, ne croira jamais que la politique qu'il veut mener à l'intérieur puisse être indépendante du reste. Lui-même en a pleinement conscience, insiste-t-on. Ouais, mais jusqu'à quand, hein? Un proche de Retailleau rappelle tout de même. En acceptant de s'inscrire dans une coalition, la droite a accepté la logique du compromis, même si c'est désagréable. On assume complètement cette situation du moindre mal, car l'alternative, c'est un gouvernement purement à gauche. En attendant, en plus d'avoir dressé des lignes rouges, le ministre de l'Intérieur compte bien garder une vigilance de chaque instant, s'agissant de l'équilibre des gestes du Premier ministre aux uns et aux différentes forces politiques. C'est une question de curseur. Là, on est à la limite de la limite. Et si demain, la politique de Bayrou sur l'école ne nous va pas, on compte réduire drastiquement le budget de l'armée. Non, pardon. Non, pardon. Si demain la politique de Bayrou sur l'école ne nous va pas, ou s'il réduit drastiquement le budget de l'armée, voilà des exemples de points très durs sur lesquels nous ne transigerons pas. On ne pourra pas rester, avance-t-on au parti. Le ministre de l'Intérieur sera d'ailleurs particulièrement attentif à la manière dont François Bayrou accueillera la proposition de loi des Républicains visant à restreindre le droit du sol à Mayotte. Un proche averti, la droite arrive et doit continuer à se déployer. Et ce sera aussi désagréable pour la gauche. Ouais, c'est la bonne conclusion, effectivement. Les Républicains n'ont pas l'intention de laisser François Bayrou brader des concessions au Parti Socialiste les unes après les autres. Ils vont souhaiter en avoir également. Donc la dérive gauchiste de François Bayrou ne plaît pas du tout aux Républicains, qui ont bien l'intention de rester fermes sur les négociations en matière budgétaire, d'une part, et sur un certain nombre de projets de loi qui ont été promis et avancés dans le calendrier. Est-ce qu'il y a un monde où Bayrou fait trop de concessions au PS et est censuré par LFI, PC, Écolo, LR du coup? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, mais ça ne suffira pas. Il manque toujours le Rassemblement national. Comment Bayrou peut faire des concessions à LR et au PS? C'est antinomique. Bah ouais. Ouais. Justement, c'est ce qu'on est en train de voir, quoi. Je sais pas, j'en sais rien. J'en sais rien. Et pour ce qui est du titre du live, est-ce qu'on est en train d'assister à la fin du nouveau Front Populaire? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est terminé, finito, les alliances électorales avant le premier tour entre les partis de gauche? Non, vraiment pas, non. Loin de là. D'accord. Il y a une grosse majorité de non quand même. Il y a une grosse majorité de non. Le vrai check, ce sera le budget. Ouais, je suis d'accord. Bon, de toute façon, ah oui, vous avez un sondage dans le chat, hein, si vous voulez voter pour me dire ce que vous en pensez. De toute façon, ce que je vous ai expliqué hier est toujours valable, c'est-à-dire que le NFP n'existe que parce que le scrutin législatif se fait au scrutin majoritaire. Si François Bayrou engage une réforme du mode du scrutin et qu'on passe à la proportionnelle, il n'y a plus besoin de NFP. Il n'y a plus besoin pour les partis de gauche de se mettre d'accord les uns avec les autres dans les circos. Avant l'élection. Après, entre les deux tours, c'est autre chose. Ce sera une dose de proportionnelle pas complète. Je me doute qu'effectivement ce ne sera pas une proportionnelle intégrale. Ça c'est à peu près écrit, ouais. Peut-être que le PS a gagné une dose de proportionnelle, on le sait ça ou pas. Ah non, mais c'est pas le PS qui demande la proportionnelle, hein, c'est le NFP et le Rassemblement National et François Bayrou. Donc non, la proportionnelle était déjà annoncée par François Bayrou. T'as rien à voir avec les négociations avec le PS. Du coup, c'est quand la proportionnelle? On n'a pas de calendrier. On n'a pas de calendrier, donc voilà. LFI est aussi OK avec la proportionnelle. Bah, c'est dans leur programme, donc. Macron peut-il dire non à la proportionnelle? Oui. Enfin, c'est pas Macron, c'est les députés macronistes, en l'occurrence, qui vont participer à la négociation. La proportionnelle intégrale ou partielle. Mais j'en sais rien, je sais pas, on n'a pas encore la copie du gouvernement. Je sais pas encore sur quelle je sais pas encore sur quelle version de la proportionnelle le gouvernement va présenter son projet de loi. Donc ce sera à ce moment-là qu'on aura le débat et qu'on verra ce qui est retenu par le gouvernement et comment c'est réécrit par le Parlement, quoi. Par contre, le Sénat dominé par LR va bloquer la proportionnelle complète. Non, le Sénat ne peut pas bloquer une proposition de loi. Un projet de loi, pardon. On s'en fout du Sénat, là, c'est pas. En plus, il y a une bonne partie de sénateurs qui sont élus à la proportionnelle départementale, alors franchement. On s'en fout du Sénat? Là, contextuellement, oui. Le Sénat n'est pas une force de blocage. Le Sénat ne peut pas empêcher l'Assemblée de changer le mode de scrutin de l'Assemblée. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi le NFP soutient la proportionnelle. Ça va les desservir puisque le RN va gagner des voix. Comment ça, le RN va gagner des voix parce que c'est la proportionnelle? Qu'est-ce que ça change? Ah, gagner des sièges. Ça dépend, ça. Ça dépend, c'est pas mécanique. C'est pas mécanique et automatique. Déjà, alors, je vous rappelle quand même que le scrutin majoritaire qu'on a aujourd'hui, hein, le scrutin majoritaire qu'on a aujourd'hui dans les circonscriptions, pendant 70 ans, on a expliqué aux enfants à l'école, enfin aux étudiants en droit, on leur a expliqué que les deux avantages du scrutin majoritaire, c'est que ça permet d'éviter la dispersion du nombre de partis à l'Assemblée nationale et que ça faisait un rempart naturel contre le Front national. Voilà, c'était les deux arguments pour le scrutin majoritaire. Je vous invite à regarder les résultats des élections législatives de 2022 et 2024 pour constater que ces deux arguments ne tiennent plus aujourd'hui. C'est fini. C'est fini l'époque où le scrutin majoritaire créait un bipartisme naturel et une impossibilité pour l'extrême droite d'arriver au Parlement. Donc, le RN n'a pas besoin de la proportionnelle pour gagner des voix, ni des sièges. La preuve. Ils sont le premier groupe de l'Assemblée aujourd'hui. Est-ce qu'on aurait une projection de l'Assemblée aujourd'hui avec une proportionnelle totale? Non. Non, on a. Enfin, en fait, si ça existe. Voilà. C'est dans Context notamment qui ont fait un simulateur. Voilà. Si tu fais. Ils ont plusieurs modèles, ils ont fait des projections. Tout en gardant en tête que les comportements d'acteurs changent en fonction des règles électorales. Donc ça reste un exercice de projection à prendre avec beaucoup de pincettes. Parce que c'est pas aussi évident que ça en fait. Si on avait une proportionnelle nationale et qu'on se base sur les résultats des élections européennes, voilà ce que ça donne. Le RN a 200 députés, LR en a 47, les Écolos en ont 36, le PS en a 91, les Insoumis en ont 65. Ensemble, on a 93 et Reconquête à 36 députés, donc. Est-ce que du coup, RN plus Reconquête plus LR, ça peut faire quelque chose? Ouais. Il y a une majorité absolue à l'extrême droite qui, si elle s'allie avec la droite. Si on prend par contre le premier tour des législatives de 2024 comme base de calcul, voilà ce que ça donne. Le NFP a 162 sièges. Donc moins qu'aujourd'hui. Hein. Ensemble à 121 sièges. LR 45 sièges. L'extrême droite 194. Et autres 55. Ouais, bah le autre, il est quand même assez important là contextuellement. Pourquoi se baser sur les européennes? Parce que c'est un scrutin proportionnel, les européennes. C'est ce que je vous ai expliqué hier sur le fait que les comportements d'acteurs, c'est-à-dire les comportements des partis et les comportements des électeurs, dépendent aussi du type de scrutin et du mode de scrutin. C'est pour ça que vous avez des votes barrages, vous avez des votes blocages, vous avez des désistements, des choses comme ça. Ça, c'est le mode de scrutin qui l'implique. Donc, comparer des proportionnelles entre elles, c'est plus malin que comparer une proportionnelle avec un scrutin majoritaire, et vice-versa. Donc si je reprends les européennes et qu'on fait une distribution par parti, sans alliance, bah, de toute façon, il n'y avait pas beaucoup d'alliances à gauche, hein. Ouais, ok. Tu vois, là, par exemple, regarde, c'est intéressant. Ils proposent dans leur simulateur de faire une répartition des sièges par parti ou par alliance. Mais vous savez comme moi qu'il n'y a pas eu d'alliance aux européennes. Le NFP n'existait pas aux européennes. Donc proposer une distribution avec NFP sur la base des européennes 2024, bah, c'est à prendre avec des pincettes. Je vous dis que c'est à prendre avec des pincettes. Ça n'existe pas en fait. Ça, c'est, on peut pas. C'est dur à dire. Ça dépend du seuil de qualification. Et tu peux changer en plus le seuil de qualification et tu peux mettre une prime majoritaire. Donc ça, c'est le scrutin proportionnel à la proportionnelle nationale. Ça n'arrivera pas, hein, je vous le dis tout de suite, la proportionnelle intégrale, ça n'arrivera pas. Ensuite, ils ont le même truc, mais la proportionnelle, mais uniquement dans les départements les plus peuplés. Qu'est-ce que ça donne si on fait une proportionnelle, mais uniquement dans les grandes villes? Bah là où tu peux refaire tes calculs. Par alliance, par parti. Moi, de ce que je vois, si je regarde que le NFP, ça change pas grand-chose, hein. Le NFP, ils ont à peu près le même nombre de sièges, hein. Ils ont à peu près le même nombre de sièges si on fait une proportionnelle nationale, si on fait une proportionnelle par département, ou dans les départements les plus peuplés, vous avez même la répartition des départements, vous voyez. Ensuite, si on fait proportionnelle dans les départements qui comptent plus de 11 élus, donc pas que les départements les plus peuplés, mais aussi les autres départements, à condition d'avoir plus de 11 élus, le NFP a toujours 177 sièges. Ça change pas. Et encore une fois, ça dépend quelle élection on prend en compte. Hein. Européenne. Mais européenne par alliance, moi, je suis désolé, ça n'existe pas. Hein. Hop. LFI 69, PS 75. Ok, d'accord. Ensuite, proportionnelle dans tous les départements. Si vraiment on a la proportionnelle dans tous les départements, le NFP 176, 210. C'est assez kiff-kiff, hein. Franchement, c'est assez kiff-kiff pour le NFP, hein. Le NFP est à peu près toujours dans le même nombre d'élus. Proportionnel par région. Ça, c'est ce qui est proposé par les écologistes. Ils proposent une proportionnelle régionale. Pareil, assez kiff-kiff. 163, 187. Parti. Voilà, bon, si vous voulez jouer avec ce simulateur, n'hésitez pas, hein. Comme ça vous pouvez modifier les seuils, vous pouvez modifier les bonus, etc. Moi, de ce que je vois, si 85, 204, est-ce que le NFP est une formation politique qui agit dans l'intérêt général, ou est-ce que c'est une formation politique qui agit un peu dans son intérêt aussi? En fonction de comment vous répondez à cette question, vous pouvez ne pas avoir le même scrutin préféré. Mais si vous êtes cynique, si l'espace de 2 minutes vous mettez de côté l'intérêt général et que vous gardez que l'intérêt particulier du NFP, je me permets de vous suggérer de militer en faveur d'un scrutin proportionnel dans les départements les plus peuplés. Je vous laisse emballer ça dans un jargon d'intérêt général, le peuple, la démocratie, tout ça, mais en vrai, le but, c'est de maximiser le nombre de sièges du NFP à l'Assemblée. Et ça peut permettre au NFP de passer à 200 sièges. Aujourd'hui, il est à 180. Est-ce que ça profitera au RN? Laisse-moi regarder. Oui, ça mettra le RN aux portes du pouvoir, oui. Oui, absolument. Ça mettra le RN aux portes du pouvoir. Ça lui donnera 248 députés. Soit à peu près autant que ce qu'avait Elisabeth Borne en 2022. Donc, non, mais d'ailleurs, tiens, non, mais faites l'exercice intellectuel, il est intéressant. Les gens qui disent que la liste arrivée en tête aux élections doit gouverner. Vous savez, cette nouveauté là depuis l'été dernier, un truc qui a été. Bon, bref, ce truc-là. Bon, bah là, ces gens-là, ils militent pour que le RN ait le pouvoir. 248 sièges, on est en tête. En tête. Mais qu'est-ce qui se passe si c'est le NFP qui fait alliance avec Ensemble? C'est plutôt le NFP, avec son allié macroniste, qui peut prétendre au pouvoir. Tu fais la répartition sans LFI? Alors, sans LFI, qu'est-ce qu'on a? On a le RN à 266. Reconquête avec 8 et les amis de Ciotti à 3. Ok, donc ils sont à 10 sièges du pouvoir. Ils sont à 10 sièges du pouvoir, le RN. La gauche. Le PS a 100 députés, LFI en a 50. Les écologistes en a 12. Ah bah. Ensemble, on a 103. Donc un peu plus que le PS. Ouais, mais est-ce que le PS allié de Ensemble, sans LFI, hein, sans LFI, ça fait 193, avec un modem, avec 12 écologistes éventuellement, les communistes, il n'y a plus qu'un seul député. Compliqué, hein. Là, ça va être compliqué d'échapper au RN, hein. T'es dans les européennes. Bah oui, je suis dans les européennes parce que tu peux pas faire une projection sur la base des législatives 2024 par parti. Parce que le NFP n'est pas un parti. Hein. C'était le truc précédent là qui s'affiche. La proportionnelle ne signifie-t-elle pas la fin du concept de majorité présidentielle? Pas du tout. Absolument pas. C'est un mode de scrutin, hein. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à l'Assemblée. Enfin, si, ça a à voir directement, puisque c'est ça qui désigne la répartition des sièges. Ouais. Donc, non, 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 le mode de scrutin le plus favorable. Au NFP, d'après ce simulateur de contexte, et si l'on se fie à des projections soumises à caution quand même d'une élection sur l'autre et d'un mode de scrutin sur l'autre, ce serait la proportionnelle dans les départements les plus peuplés, qui certes mettrait le RN quasiment au pouvoir, mais permettrait au NFP d'avoir 200 sièges. Voilà. Je vous laisse militer pour le mode de scrutin que vous voulez. Je reviens juste sur la version régionale. Version régionale, ça affaiblit un peu l'extrême. Ouais, ils sont quand même à 200 députés, les mecs. Hein. La répartition par parti, 67 LFI, 90 PS, 22 LFI. 22 écolos, 100 ensemble. Alors. Est-ce est-ce que ça ne changerait pas la façon de voter des gens? Si, si, et c'est pour ça que je vous invite à faire preuve de distance critique et de prendre des pincettes quand vous simulez ce genre de truc, c'est que précisément quand tu changes de mode de scrutin, tu incites les électeurs à se comporter d'une certaine manière. Les unions entre partis, les listes communes, les fusions de listes, les votes barrages, les votes utiles, tous ces trucs-là n'existent que parce que le mode de scrutin rend nécessaire ou pas, selon les électeurs, de se comporter d'une certaine manière. Donc, projeter des résultats de proportionnels sur un scrutin majoritaire, c'est déjà en soi un exercice que les statisticiens vous invitent à prendre avec beaucoup de pincettes. C'est ça que je veux dire. Et un scrutin de style municipal où le nombre de sièges est réservé aux gagnants pour lui assurer une majorité, comment ça s'appelle? Ça s'appelle la prime majoritaire. Ça s'appelle la prime majoritaire. La liste arrivée en tête obtient X% des sièges en plus. Donc par exemple, dans une assemblée de 577, si on fait une prime majoritaire à 25%, c'est quoi 25% de 577? Cent quarante-quatre, 140. Voilà. Si vous faites une prime majoritaire à 20%, le RN a 300 députés et gouverne la France. C'est ce que veut le RN? Oui, c'est ce que veut le RN, oui. Bah, il serait con de pas le vouloir. 58 députés, ça donne quoi? Quoi, tu veux mettre qu'un dixième? Ça donne l'extrême droite aux portes du pouvoir. Le problème, c'est les 50 autres, là, qui... Tant que c'est pas l'extrême gauche, ça me va. Oh, ça devrait aller, hein. Si c'est ça qui te fait peur, je t'invite à pas faire beaucoup trop de cauchemars, hein, parce que ça va, c'est assez. Extrême gauche au Parlement, c'est assez tranquille. LFI inclus. Ah, si tu inclus la France insoumise dans ce que tu appelles l'extrême gauche. Ils sont rarement à plus de 70 députés. Hein. Pareil, hein, c'est pas. Là, ils sont 50. Là, ils sont 70. Non, pardon, ça. Là, ils sont 50. Là, ils sont 67. Ouais, non, ils sont jamais plus de 80. Hein. En vrai, si c'est ça qui te fait peur, si c'est l'extrême gauche qui te fait peur, à ta place, je dormirai tranquille. Hein, ça va, ça va. Ce serait horrible que les Français puissent décider du sort de la France. Ah bah, il y a un moment, il y a des grandes urnes avec des petits bulletins dedans, hein. Comme ça que ça marche, hein. On pourrait avoir un retour de la loi des apparentements pour lutter contre les extrêmes aussi. Ouais, alors la loi des apparentements, elle a pas fait que des heureux à l'époque. Elle n'a pas duré très longtemps, surtout. Et non, c'est ça pue un peu le tripatouillage de répartition des sièges entre copains, ce genre de méthode-là. C'est quoi cette loi? La loi des apparentements, c'était une loi au moment de la 4ème République qui a été votée par les partis, disons, modérés pour lutter contre les extrêmes. Et c'était une loi qui permettait, c'était un scrutin proportionnel, mais qui permettait aux listes de s'apparenter les unes aux autres avant le premier tour. En gros, les listes étaient invitées, si elles le souhaitaient, à dire avant l'élection avec qui elles étaient potes. Donc tu pouvais avoir trois partis politiques qui se présentaient à l'élection avec chacun sa liste, mais avant l'élection, ils déclaraient, nous trois, on est copains, on est amis. Et qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait que si jamais le cumul des voix du groupe de copains dépassait 50% au premier tour, alors l'ensemble des sièges du département étaient pour la bande de copains, répartis à la proportion des voix entre les copains. C'est une manière de lutter contre la dispersion des voix à l'Assemblée nationale. Une fois au pouvoir, ils étaient forcés de obligés de rester amis. Ah non, non, pas du tout, pas du tout. Une fois arrivés à l'Assemblée, ils pouvaient se mettre sur la gueule s'ils le souhaitaient. Ça permet de faire front. Ah bah ça permet de faire front commun, oui, c'est une sorte, c'est un peu comme une alliance électorale qui dit pas son nom. Au lieu de faire des fusions de listes ou des listes communes, on fait des apparentements. C'était pas très populaire à l'époque, hein, je vais pas vous mentir, c'était pas très populaire à l'époque. Hein. Ça faisait vraiment, on se répartit entre les sièges entre copains. Puis en plus c'est bourrin parce que c'est une espèce de proportionnel qui est pas vraiment proportionnel. Ça veut dire que les gens qui ont voté pour des listes minoritaires dans le département. C'est-à-dire, ta liste, elle a fait 30%. Ah bah super, comment il s'appelle mon député? Ah non, non, t'as pas de député, en fait, c'est les copains. C'est le groupe des copains qui a fait plus de 50%. Du coup, il n'y a que eux qui ont des députés. Toi, t'en as pas. Désolé. Ouais, non, c'est un peu bourrin. C'est un peu bourrin comme méthode. Mais ça existe, ça. Ça existe. Voilà. Ça a le mérite d'exister. La loi des apparentements, effectivement. C'était dans les années 40, 50, je sais plus. Pas ouf comme système. Vous savez, c'est ça qui est beau et c'est ça que j'aime bien avec les discussions et les débats publics sur les modes de scrutin. C'est que. Personne n'est dupe, tout le monde sait qu'on fait semblant de s'intéresser à l'intérêt général de la démocratie du pays, alors qu'en vrai, tout le monde regarde un petit peu son petit intérêt particulier. Un petit peu, un petit peu. Un petit peu. Voilà. Qu'est-ce qui m'arrange le plus comme mode de scrutin? Qu'est-ce qui maximise ma capacité à... C'est un peu comme quand un entraîneur de foot sur le banc de touche au gardien, oh la faute là, il y a faute. Est-ce qu'il fait ça en tant que citoyen soucieux du sport et de son équité? Ou est-ce que c'est parce que c'est un de ses joueurs qui vient de tomber? Quand il y a faute, il y a forcément un accent du sud. Oui, c'est obligatoire. C'est comme la gendarmerie. C'est forcément un accent du sud. Il y avait penalty. Ouais, il y avait penalty. Il y a pas main. Il y a main. Il y a pas main. Ouais. Bah, voilà, c'est un peu pareil. Mais c'est pas grave. Hein. Il faut pas. Il faut. Enfin, je veux dire, il faut accepter la part de comment dire d'individualisme des acteurs politiques dans les débats électoraux. De subjectivité, oui, voilà, c'est ça, de subjectivité. C'est pas grave d'être subjectif. Donc, quand Marine Le Pen dit qu'elle veut une prime majoritaire en plus du scrutin proportionnel, Il se trouve qu'elle est aussi à la tête du premier parti de France, ce qui pourrait éventuellement indiquer qu'elle aurait intérêt à une prime majoritaire. Le jour où Marine Le Pen ne sera plus à la tête du premier parti de France, mais que le premier parti de France sera Europe Écologie Les Verts, dans les milieux écolos, on commencera à entendre parler de, tiens, pourquoi pas une prime majoritaire, est-ce que c'est pas finalement quelque chose de démocratique? Voilà. C'est comme maximiser ses chances d'arriver au pouvoir. Exactement. Exactement. C'est quoi une prime majoritaire? C'est une règle qu'on peut ou pas mettre dans la loi, si on veut, dans la loi électorale, qui prévoit que la liste arrivée en tête des élections obtient automatiquement un certain pourcentage de sièges en plus du reste. C'est une sorte de forçage majoritaire qui permet de garantir la stabilité institutionnelle. Marine Le Pen réclame une prime majoritaire depuis longtemps, non? Anticipant l'ascension de son parti. Je crois pas que ce soit si vieux que ça que Marine Le Pen parle de prime majoritaire. Hein. Le scrutin proportionnel, oui. La prime majoritaire, je crois que c'est assez récent. Hein. La prime majoritaire pour les scrutins locaux, ça passe, car la plupart y trouvent leur compte dans une stabilité de gestion de fief. Mais au niveau national, je pense pas que ça passe. Je pense pas non plus. Bon, si c'est une décision à prendre. Hein. Ça fait 10 ans qu'elle en parle. Ça fait 10 ans que Marine Le Pen parle d'une prime majoritaire. J'ai bien dit prime majoritaire, j'ai pas dit scrutin proportionnel. Ah, scrutin proportionnel, Jean-Marie Le Pen le défendait déjà il y a très très longtemps. Ça, c'est pas nouveau à l'extrême droite, mais la prime majoritaire, je suis pas sûr. Et si la prime majoritaire existe, est-ce que ça ne rend pas utile de faire des alliances, y compris à gauche? Est-ce que le NFP ne va pas renaître de ses cendres, précisément à cette occasion? Aucune consultation du peuple sur les modes de scrutin, c'est quand même dingue, non? Bah, ça passe au Parlement, hein. C'est pas Emmanuel Macron qui décide seul dans son bureau, hein. C'est une loi qui est votée au Parlement. Je sais pas. Oui, mais la majorité du peuple n'y comprend rien. Ça va. On peut avoir des débats démocratiques dans ce pays sans considérer par principe que les autres sont des débiles. On peut, je suis sûr qu'on peut. On peut y arriver. Bah. Laisse-nous être débiles, on a le droit. Les macronistes seraient prêts à voter un mode de scrutateur, Hein, à la proportionnelle. Un mode de scrutin à la proportionnelle, avec si peu de représentants départementaux ou régionaux? Oui, parce qu'en l'occurrence, c'est assez indépendant de la quantité de représentants que tu as aux élections locales. Ça reste des élections nationales, donc. Je sais pas. Bon, hey, pour l'instant, on discute là, on discute de proportionnel, 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 tout ça, tout ça. On n'a pas encore d'informations sur le calendrier de la proportionnelle, hein. Donc, c'est même pas sûr que les prochaines élections législatives se passent à la proportionnelle. On restera peut-être sur notre bon vieux scrutin majoritaire. Pour votre plus grand plaisir. Et donc, si on reste sur le scrutin majoritaire, pour reboucler avec le titre de ce stream, est-ce que le NFP va continuer à exister? Est-ce que une alliance électorale entre les partis de gauche va rester nécessaire et utile? Contraint et forcé, bien obligé, face à la menace du Rassemblement national au pouvoir. Ils y ont tout intérêt, ouais, je suis d'accord. Oui, mais sans le PS. Est-ce que les candidats du NFP sans le PS ont intérêt à avoir un candidat PS face à eux dans leur circonscription? C'est ça que ça veut dire. Le NFP, c'est un peu ton scrutin de copain, là, quand même, c'est moche. Non, 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 ça n'a rien à voir avec les apparentements. Le NFP, c'est une alliance électorale entre partis politiques. Après, LFI l'a fait, ils ont envoyé des candidats contre les candidats PS que Jean-Luc Mélenchon n'aimait pas. À qui tu fais référence? Dans une ou deux circos, ça a pu arriver. Mais non, la France Insoumise n'a pas présenté de candidat face au PS dans les circonscriptions fléchées PS par l'accord. Donc ça a pu exister marginalement, c'est possible. Par contre, le PS, alors il y a des candidats PS déçus qui se sont présentés contre des candidats investis à LFI, mais sans l'investiture du Parti socialiste. C'est un macroniste chez moi grâce à un dissident PS. Voilà, bah donc tu vois. Non mais donc tu vois, c'est très très bon exemple. D'où l'importance de l'alliance entre les partis du NFP, socialistes compris, pour ne pas se gêner les uns les autres dans les circonscriptions. Sinon, alors, ça, autant se mettre sur le bord de la route et regarder les macronistes ou le RN arriver au pouvoir. Il y a les ex-LFI pas investis. Ah oui, il y a les purgés aussi, oui. Oui, bah ça va falloir négocier, hein. Il va falloir discuter. Ça va être complexe. Ça va être complexe pour les partis. Non, mais ça va être intéressant à suivre dans les mois et les semaines qui viennent. On verra. En tout cas, je vous rappelle, hein, encore une fois, que la prochaine étape la plus difficile, c'est le budget. Que ça va être dans le courant du mois de février. Que ça va continuer à négocier sec. Et qu'on va suivre tout ça, évidemment. Merci d'avoir été avec moi, les copains. Je vais m'arrêter là. Je restream peut-être dimanche après-midi en mode Flight Simulator détente week-end. Et sinon, on reprend lundi prochain pour la suite de vos programmes habituels. Merci, je vous fais des bisous. Passez une bonne soirée, à tout bientôt. Ciao, ciao.